Le journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, 8 heures par jour scotchés devant l'écran, conséquence de l'usage intensif des smartphones. Les cas de myopie explosent en France, c'est particulièrement le cas chez les plus jeunes. Aux États-Unis, Houston placé sous couvre-feu, les autorités redoutent des pillages. Les centres d'accueil pour sinistrés sont débordés. Un pèlerinage pour faire peut-être retomber la pression. L'Arabie Saoudite accueille 2 millions de musulmans à partir d'aujourd'hui à la Mecque. Pèlerinage annuel sur fond de tension avec le Qatar. À 8h20, comment les patrons français accueillent-ils la réforme du code du travail avant les annonces demain? Vous recevez le PDG de l'un des plus grands groupes français, Antoine Frérot, le patron de Veolia.
Le PDG, oui, mon cher Marc, et vous, auditeurs, vous pourrez interroger à 8h40 Antoine Frérot. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le Facebook Live de France Inter, Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, à droite, toute, Laurent Wauquiez lance sa campagne pour la présidence des Républicains. Le bio, nouvelle poule aux œufs d'or pour les grandes surfaces, les produits aimerait bien en profiter un peu. La contre-attaque de Bernard Laporte, le patron du rugby français, se défend pour la première fois dans une affaire de favoritisme. Et puis la Mostra de Venise, qui débute aujourd'hui avec un défilé de stars américaines. Y aura-t-il un jour une génération M comme myope? À force de vivre le nez dans les écrans, les smartphones, les tablettes sont en train de nous gâcher la vue. Chaque année, l'Association nationale pour l'amélioration de la vue interroge les 16-24 ans, a priori les plus accros aux écrans. L'an dernier, 29% d'entre eux affirmaient avoir du mal à voir de loin. Cette année, la proportion monte à 41%. La myopie gagne du terrain dans des proportions inquiétantes. La fatigue visuelle aussi, Véronique Julia fait le point pour nous.
D'après l'enquête Opinion réalisé pour l'association, cette année, les 16-24 ans passeraient plus de 8 heures par jour devant un écran, que ce soit la télévision, l'ordinateur, la tablette, mais surtout le smartphone, qui les occuperait à lui tout seul 4 heures par jour. À force de fixer ce rectangle lumineux, ces jeunes développent ce qu'on appelle une myopie fonctionnelle. En gros, leurs yeux, quand ils décrochent de l'écran, n'arrivent plus à s'accommoder à la vision de loin. Catherine Jéga est la porte-parole de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue.
Grosso modo, notre périmètre visuel, il se limite à 30 à 50 cm. Le téléphone, c'est à 20 cm, la tablette, c'est à 30 et l'ordinateur à 50. À partir du moment où on ne regarde plus assez au loin, le cerveau interprète que cette vision de loin n'est plus une priorité et privilégie la vision de près en provoquant ce phénomène de myopie. Normalement, l'humain n'est pas fait pour regarder de près.
La vision de près nécessite du coup un effort à l'origine aussi de la fatigue visuelle dont se plaignent les 16-24 ans. S'il paraît difficile de supprimer les écrans, l'association insiste sur la prévention. Elle recommande dans la pratique des pauses régulières de 5 à 10 minutes et elle conseille dans ces moments-là de regarder au loin, au minimum à 5 mètres, ce qui reposera l'œil, de préférence aussi sous une lumière naturelle.
Véronique Julia, 8h03, interdiction de sortir de chez soi la nuit. Aux États-Unis, Mark Houston est désormais sous couvre-feu.
Décision du maire de la ville pour éviter les pillages. Certains ont déjà été signalés dans la ville inondée. Les réservoirs d'eau débordent. Certaines digues commencent à lâcher. Il a fallu évacuer d'urgence un quartier hier soir. Inquiétude également autour d'une usine chimique. Tous les résidents vivant à moins de 2,5 km du site ont été évacués par crainte d'une fuite ou d'une explosion. Le centre des congrès de Houston, lui, a été transformé. Formé en abri, prévu pour 5000 personnes. Il en accueille déjà le double. Philippe Randé est l'envoyé spécial de France Inter.
Aaron le dit avec un sourire fatigué, je fais partie des 5000 chanceux qui dorment sur des matelas.
After being up about two, three days.
Je suis resté debout pendant 2-3 jours avant de m'endormir ici la nuit dernière.
But I can still picture everything.
Mais dans ma tête,
like the water was like
je vois toujours les images de l'eau qui montaient jusque-là.
Et pendant que Aaron monte la main au niveau de sa poitrine, un couple se bat un peu plus loin en hurlant. Autopsie d'un traumatisme généralisé, Malcolm les observe avec inquiétude.
Des gens se battent, certains deviennent furieux à cause de la nourriture. J'ai vraiment l'impression qu'on devient tous fous. On a besoin de s'unir. Mais malheureusement, tout le monde est énervé, car ce qu'il s'est passé est très traumatisant.
Et parfois, l'espace de quelques secondes, la vie reprend. Un bénévole déguisé en super-héros tente de faire rire des enfants devant le regard amusé de Karen.
C'est Spider-Man, il est venu ici aussi vite qu'il a pu. Ça fait du bien de rire. C'est vrai qu'on est trop nombreux ici, mais on est tous dans la même situation et on doit faire preuve de compassion entre nous.
Dans le hall d'entrée, les annonces de bienvenue sont incessantes. Les responsables du centre l'ont promis, ils ne refuseront personne. Houston, Gilles Gallinaro, Philippe Rendez, France Inter.
Et sur place, l'aide commence à arriver. Le gouvernement américain débloque 25 millions de dollars en urgence. La NBA, le championnat nord-américain de basket, offre 1 million. Et la star Beyoncé, originaire de Houston, promet de piocher dans sa fortune pour aider les victimes. Une condamnation, mais pas de sanction cette nuit à l'ONU après le nouveau tir de missile de la Corée du Nord. Les États-Unis avaient pourtant menacé de recourir à la force, mais au final, le Conseil de sécurité se contente d'une déclaration condamnant fermement le tir de missile au-dessus du Japon. Déclaration approuvée à l'unanimité des 15 membres, y compris par la Chine, alliée du régime de Pyongyang. Bernard Guetta y revient dans quelques minutes. Pendant la crise, le pèlerinage continue. 2 millions de musulmans attendus à partir d'aujourd'hui à La Mecque, en Arabie Saoudite, pour le pèlerinage annuel. Mais cette année, il se tient en plein coup de froid diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Bonjour Luc Lemonnier.
Bonjour.
L'événement pourrait tout de même permettre aux deux pays de faire un peu retomber la pression.
Le pèlerinage est au cœur, en tout cas, de la crise qui oppose depuis 3 mois le petit et richissime émirat gazier du Qatar à son grand voisin saoudien et à ses alliés, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Égypte. Accusé de trop se rapprocher de l'Iran, de soutenir des mouvements extrémistes chiites type Hezbollah, voire le groupe État islamique, le Qatar a été mis au fil des semaines en quarantaine par ses voisins, rupture des relations diplomatiques, interdiction d'espace aérien et embargo en tout genre. Dans ces conditions, on comprend que les Qataris soient, disons, hésitants à se rendre en Arabie. Ils étaient 12 000 l'an dernier, ils seront au mieux quelques centaines cette année. Les voyages organisés par des agences spécialisées ont été divisés par 10. Et ceux qui ont maintenu leur déplacement se distinguaient des risques de harcèlement. L'Arabie Saoudite, qui dément vouloir politiser le pèlerinage, a ouvert un poste aux frontières afin de faciliter l'entrée des fidèles en provenance du Qatar. Une médiation a eu lieu entre deux membres des deux familles régnantes et des appels à la raison ont été tenus ces dernières heures. Mais le Hajj comme outil diplomatique pour apaiser la crise est loin d'être au niveau de ce que fut le ping-pong pour la Chine.
Merci Luc Lemonnier. Il est 8h07, c'est la fin d'un faux suspense à droite. Laurent Wauquiez lance aujourd'hui sa campagne pour la présidence du parti Les Républicains. Pas n'importe où, un château renard dans les Bouches-du-Rhône, là où Nicolas Sarkozy s'était lancé dans la primaire avec le succès qu'on connaît. Premier meeting ce soir et dans la foulée, sans doute, l'annonce officielle de sa candidature avec une ligne, Estelle Schmitt, qui tient en 3 mots à droite.
C'est une certitude, Laurent Wauquiez sera officiellement candidat avant la mi-septembre, mais peu importe la date, selon son entourage, car il sait où il va et c'est par la droite qu'il veut prendre le parti. Première étape ce soir, Château-Renard, terre du Sud ancrée à droite où Nicolas Sarkozy avait lancé sa campagne pour la primaire l'an dernier. Discours de rentrée pour Laurent Wauquiez. D'après un proche, il devrait s'adresser aux classes populaires tentées par le vote Front National, mais également à sa famille politique divisée. Il veut montrer qu'il peut rassembler, explique un député qui le soutient, d'où ses nombreux coups de fil passés tout l'été aux élus du parti. Opération séduction de Laurent Wauquiez pour rassurer les plus effrayés par son positionnement très à droite. Il écoute et il ne s'énerve plus face aux critiques, raconte amusé un jupéiste. Mais Laurent Wauquiez le sait, il est loin de faire l'unanimité et le risque de scission est bien là. Certains modérés, dont les constructifs, n'excluent pas de quitter le parti Les Républicains pour en créer un autre. Le prochain président serait alors à la tête d'une minuscule structure refermée sur elle-même, redoute un député.
Et ce matin, c'est l'ex-porte-parole de François Fillon, Florence Portelli, qui annonce elle aussi sa candidature dans les colonnes du Figaro. C'est une colère qui monte à 5 jours de la rentrée scolaire. À leur tour, les maires de Guyane menacent de repousser d'une semaine la rentrée des classes. Faute de moyens, disent-ils, il n'y a plus assez de contrats aidés pour assurer l'accueil des enfants. Les élus réunionnais avaient déjà pris une décision semblable et plusieurs communes de métropole menacent de leur emboîter le pas. Là aussi, la rentrée s'annonce compliquée, mais pour d'autres raisons, au lycée Sugère de Saint-Denis, près de Paris, enseignants, parents et élèves redoutent de nouveaux incidents. Ils manifesteront cet après-midi devant le rectorat. Il y a un an, c'est un surveillant qui avait été violemment agressé. Il y a 3 mois, des casseurs étaient parvenus à s'infiltrer dans le lycée. Retour sur place et reportage signé Sébastien Sabiron.
On a assisté à une véritable émeute suivi d'une guérilla urbaine dans les rues.
C'était en mars dernier, en pleine campagne présidentielle. François Fillon, comme Marine Le Pen, fustigeait les violences à Sugère. Depuis, le soufflet est retombé, mais rien n'a changé selon Marouane, tout récent bachelier.
Il y a eu énormément de violences cette année. On a même eu des feux littéralement criminels qui ont été mis dans le lycée. Le quotidien à Sugère, c'est de se demander, au final, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui, quoi.
Au printemps dernier, la présidente de région, Valérie Pécresse, promettait 50 000 euros d'investissement pour sécuriser le lycée. Une réponse matérielle quand les profs réclame des moyens humains. Véronique Giraud, déléguée SNES à Sugère.
Ils ont rehaussé les clôtures, mais bon, je pense pas que ça soit fondamentalement dissuasif. Et puis il y a eu des caméras en plus, on n'a jamais demandé des caméras, nous. Les jeunes, ils parlent pas aux caméras, les jeunes, ils parlent aux adultes.
Avec un CPE et demi seulement pour 1400 élèves, l'équipe pédagogique décrit un sentiment d'abandon, symptomatique des lycées de banlieue, selon cette enseignante.
Les établissements de la périphérie sont traités avec du mépris, du dédain, une forme d'hostilité. Même à chaque fois qu'on est abandonné à nos situations, on réagit à Sugère de manière assez vigoureuse. Et ça génère en face, non pas une plus grande écoute, mais beaucoup d'agressivité.
Référence à la récente mutation imposée d'un enseignant historique du lycée. Ses collègues demandent sa réintégration, sous peine, disent-ils, de ne pas pouvoir assurer la rentrée scolaire.
Peut-être l'armistice dans l'affaire Bettencourt, d'après le journal Le Parisien aujourd'hui en France. La fille de la milliardaire Françoise Meyers-Bettencourt et le photographe François-Marie Bagnier, en conflit depuis 7 ans, auraient décidé de faire la paix. Un accord aurait été conclu pour éviter un nouveau procès.
8h11, à qui profite le boom du bio en France?
Eh bien d'abord aux grandes surfaces, si l'on en croit la dernière étude de l'UFC Que Choisir. L'association pointe les marges exorbitantes de la grande distribution. Elles seraient, ces marges, deux fois plus importantes que pour les produits de l'agriculture conventionnelle. Mais si les supermarchés se frottent les mains, c'est loin, très loin d'être le cas à l'autre bout de la chaîne, dans les fermes qui ont choisi de se convertir au bio. Alain Gastal s'est rendu dans un élevage du Gers.
C'est par conviction que Luc s'est installé dans l'élevage bio. Une cincantaine de vaches allaitantes et presque autant de veaux sous la mer. Seulement, voilà, en 2 ans, son brouillard s'est considérablement épaissi. L'aide à la conversion bio de la région Occitanie, mal calibrée, a fondu. 5000 euros de perdus. Les aides européennes arrivent, mais parfois en retard. Et l'indemnité de handicap naturel, car la région est très vallonnée, va peut-être disparaître. Ce qui fait beaucoup trop d'aléas pour un exploitant jeune, fragile et endetté. Car Luc n'est pas fils d'agriculteur.
Tous les mois, on nous envoie un nouveau calendrier en nous disant que les aides seront versées telle date, et c'est jamais le cas. Mais j'ai pas du tout touché un seul centime des MAE que j'ai contracté ici, quoi.
MAE, c'est ?
Mesure agro-environnementale. Donc tout ce qui est en faveur d'une agriculture plus en adéquation avec l'environnement.
Et si sur les étals des bouchers ou dans les hyper, la viande bio se vend bien et cher, pour le producteur, c'est un peu différent.
Le bio se vend exactement au même prix que le conventionnel. C'est extrêmement frustrant, étant donné que le coût de production n'est pas du tout le même. Ouais. Parce que l'alimentation doit être en 100% bio. Et une tonne de céréales bio, c'est 2 à 3 fois plus cher.
Luc survit en faisant un peu de vente directe, mais qui demande beaucoup de temps et d'investissement. Son rêve, arriver un jour à se verser un SMIC. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Quant à la grande distribution, elle dénonce une étude partielle. Si le bio est plus cher, répond la Fédération du commerce et de la distribution, c'est notamment en raison du conditionnement particulier des produits et du fait qu'ils se conservent moins longtemps dans les rayons. Le bio sous toutes ses coutures, c'est sur franceinter.fr. Des démissions en série, des soupçons de favoritisme. Bernard Laporte, le patron de la Fédération française de rugby, s'explique enfin dans une interview au Parisien aujourd'hui en France. Je n'ai rien dissimulé, jure-t-il, alors qu'il est soupçonné d'être intervenu pour alléger des sanctions sportives contre le club de Montpellier, alors même qu'il avait signé un contrat d'image de 150 000 euros avec le patron de ce club. Il reconnaît les faits, mais c'était, dit-il, au nom des intérêts du rugby. Ça s'appelle, Jérôme Val, beauté en touche.
L'attaque est la meilleure défense. Enfin, tacticien, Laporte en donne une nouvelle illustration. Je n'ai rien dissimulé, dit-il, ni exercé aucune pression. J'ai seulement donné un éclairage politique pour tenter l'apaisement dans ce dossier. D'ailleurs, pour lui, le fait d'avoir allégé les sanctions n'est pas exceptionnel. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas avec la commission d'appel. Seule concession faite par Laporte, ce fameux contrat d'image conclu entre sa société et le président du club de Montpellier. Oui, il n'aurait pas dû le signer, tout en rappelant que ses séminaires rémunérés sont sa seule source de revenus. Pour le reste, le patron du rugby français reste ferme. Pas de démission et il menace. On peut se demander d'où viennent ces révélations, s'interroge-t-il, tout en donnant la réponse des gens qui qui ne supportent pas de me voir à ce poste et ils pointent encore une fois la Ligue accusée d'instrumentalisation.
La tenante du titre à terre cette nuit à l'US Open, l'Allemande Angélique Kerber quitte le tournoi dès le premier tour battu par la Japonaise Osaka. Chez les hommes, Nadal et Federer passent le premier tour mais le Suisse s'est fait peur. Victoire en 5-7 face au 70e joueur mondial.
Et pour finir, Marc, direction Venise et son festival de cinéma.
C'est même le plus vieux du monde. La Mostra démarre aujourd'hui. Cette année, elle aura l'accent américain. Robert Redford, Jennifer Lawrence, Jane Fonda, George Clooney, tous attendus sur son tapis rouge. Quant à la sélection, 21 films en lice. Elle a de quoi rendre jaloux les autres festivals. Corinne Pellissier.
The Shape of Water, Foxtrot, Downsizing, Linen Pit, tous ou presque seront bien sûr visibles dès la semaine prochaine à Toronto chez le grand concurrent. Mais rien ne vaudra jamais l'ambiance du Lido et sa vue imprenable sur la lagune depuis l'hôtel Excelsior. D'autant que le festival s'est donné du mal ces dernières années pour retrouver toute son attractivité. En termes d'innovation d'abord, avec la mise en place d'une toute nouvelle compétition consacrée aux films en réalité virtuelle, et puis grâce à une politique beaucoup plus offensive en direction d'Hollywood. Encore beaucoup de stars sur le tapis rouge cette année, de Jennifer Lawrence à George Clooney, qui présentera samedi son nouveau film Suburbicon, une comédie violente et déjantée, coécrite par les frères Cohen, que tout le monde aurait bien vu en compétition à Cannes en mai dernier.
Welcome to Suburbicon.
Et puis ce sera l'un des temps forts de cette 74e édition, Our Souls at Night, nos âmes la nuit. Jane Fonda, Robert Redford, à nouveau réunis 40 ans après Le Cavalier électrique de Sidney Pollack, dans une comédie romantique produite par Netflix. Ils recevront ce vendredi un Lion d'or pour l'ensemble de leur carrière.
Voix d'Etta James, sublime. L'une des reines de la soul, pour vous souhaiter la plus belle des journées.
Merci mon cher Marc, c'était le journal de Marc Fauvel.